Hello, hello, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le Maki, le podcast de la Méca des étudiants caribéens, africains, sympathisants et plus connus sous le nom d'Amecas. Histoire, culture, économie, société ou encore géopolitique. Si vous avez une appétence pour ces sujets et que vous portez en plus un intérêt particulier pour l'Afrique et les mondes afrodescendants ou surtout que vous souhaitez simplement en apprendre davantage, alors vous êtes au bon endroit.
Du coup, on a une thématique, c'est créativité, culture, engagement politique dans les diasporas. Le sujet, c'est vraiment les revendications politiques dans l'art africain. Donc,
D'accord.
comprendre les enjeux qu'implique l'art africain, essayer de voir un peu l'état d'esprit des artistes africains et voir comment ils explorer un peu les différentes expressions de soi et expressions politiques qu'il y a au travers de leur art. Donc, du coup, tu es Baloji. Alors, tu es né à Lubumbashi en République démocratique du Congo, tu as grandi à Liège en Belgique. Alors, tu es musicien, réalisateur, directeur artistique, designer, donc vraiment un artiste polyvalent et vraiment complet. Et,
Je sais pas, mais
mais très polyvalent en tout cas. Alors, en tant que réalisateur, tu as sorti pas mal de courts-métrages et tu as sorti ton premier long-métrage en novembre dernier qui s'appelle Augure. Donc, il a été présenté à Cannes en mai dernier, en mai 2023, où tu as reçu le prix de la Nouvelle Voix dans la sélection Un certain
certains
regard.
regards.
Et du coup, tu as eu pas mal de nominations et de prix
Au cours de l'année.
au cours de l'année. Merci. Et tu as été choisi par le comité des Oscars pour représenter la Belgique.
Okay.
Alors, quelle était ta réaction quand tu as appris que tu représentais la Belgique aux Oscars?
Un sentiment, ouais, de fierté et en même temps particulier, vu que entre 2000 et 2002, j'étais sans papier. J'ai eu un ordre de quitter le territoire. Et je me suis caché jusqu'au moment où je me suis fait attraper comme un con. Et j'ai directement repensé à ça, à ce moment-là, spécifiquement. Et tu vois, la mémoire, c'est un truc très particulier, parce que j'en avais plus jamais parlé, j'y avais plus jamais pensé. Et j'ai juste pensé à Cannes, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse un discours avant de présenter mon film. Et j'ai dit que c'était particulier pour moi de représenter la Belgique, vu que, en fait, Augure était le seul film en sélection officielle cette année-là, et qui représentait la Belgique. Et du coup, bah, tu repenses à ton parcours et tu repenses à la violence de l'ordre de quitter le territoire. C'est d'une violence sans nom, en fait. Et tout un système qui est mis en place par rapport à on dit l'accueil des réfugiés. Je sais pas si l'accueil est le terme à utiliser dans ce contexte-là, mais la condition de traitement qui est infligée aux gens qui sont en situation d'irrégularité est assez violent, en fait, dans nos pays. Et je pense que la France vient de voter une loi immigration qui est d'une violence sans nom. C'est surtout moi une ligne qui me fait mal. C'est la ligne qui interdit l'accès aux soins médicaux, aux soins dentaires, aux soins médicaux pour les personnes en situation d'irrégularité. Et moi, c'est ce qui m'a sauvé pour rester en Belgique. Et donc voilà, donc c'est particulier en tant que ex-réfugié, ex-sans-papier, ex-illégal de représenter la Belgique.
Mais du coup, au niveau de ton identité, ça a dû être compliqué. Comment tu fais pour te reformer après ça, pour essayer de reprendre ton identité belge après ce que tu as vécu?
C'est le temps, parce qu'en même temps, je dois énormément à la Belgique, parce que sinon, j'aurais pas pu faire ce film, en fait, vu que c'est un film qui a uniquement été financé par la communauté francophone de Belgique, sinon on n'a pas eu de thunes, et donc je leur dois énormément.
Bien sûr.
Donc ils ont un rôle prépondérant dans la concrétisation de ce projet.
Et ben justement, ton histoire, enfin, ça rappelle l'histoire un peu de ton personnage principal dans le film, donc l'histoire de Kofi, qui lui retourne au Congo, et du coup, parce qu'il a été banni par sa famille. Et du coup, à travers le film, on découvre plusieurs personnages, donc quatre personnages. Il y a Kofi, il y a T'Challa, la sœur de Kofi, Mama Mujila, la mère de Kofi, et Paco, qui sont considérés comme sorciers par la société. Et vraiment, tout ça dans un décor très fantasmagorique, très poétique, très onirique. Et donc toi, tu as décidé, à la suite de ce projet-là, de faire un album, donc une bande originale qui sort, à l'heure où on parle, ça sort ce vendredi 5 avril, donc c'est pas encore sorti. Comment est venue l'idée de cet album?
C'est venu un moment où j'arrivais pas à financer mon film. Donc j'ai eu l'idée de faire la musique inspirée d'un film qui n'existera jamais. Et j'ai pensé à faire le point de vue de mes personnages, de raconter, de faire un album pour l'un des quatre protagonistes principaux, pour chacun des quatre protagonistes principaux, de leur faire un album ou qui leur sert de backstory, qui raconte leur humeur ou leur réaction dans certaines situations. Et ça a été inspiré d'une interview que j'aime bien conseiller à tout le monde. Ça s'appelle Off the Record. C'est d'un producteur américain qui s'appelle Rick Rubin, qui reçoit André 3000, qui est le chanteur de Outkast, où lui il lui dit qu'il est complètement déprimé, qu'il veut plus créer et qu'il va plus faire de musique. Et l'autre lui dit, mais t'es un artiste extraordinaire, faut que tu fasses quelque chose. Et il lui dit, tu devrais faire comme les Beatles en fait. Ils ont créé un nouveau groupe. C'était le groupe numéro un au monde. C'était l'hystérie collective partout où ils allaient. Ils se sont réinventés. Ils ont décidé de parler du point de vue d'un autre groupe, Sgt. Pepper. Et ça leur a permis de créer d'autres dynamiques. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, le travail de scénariste, c'est un travail qui est construit sur l'empathie, en fait. Et que dans la musique, on le fait pour une chanson ou deux, on écrit du point de vue d'un autre, truc un peu typique, où j'écris le point de vue d'une fille des cités, où j'écris le point de vue de machin, enfin tu vois. Orelsan fait beaucoup ça, des gens comme ça. Et là, puis je me suis dit, en fait, je vais écrire un album complet du point de vue de mes protagonistes. Sauf que écrire du point de vue des protagonistes féminins, il y avait quelque chose d'un peu plus complexe parce qu'il y a une ligne poreuse entre parler à la place d'eux ou parler du point de vue d'eux, d'essentialiser les femmes, d'avoir un discours en surplomb. Et donc, ça a été pour moi un exercice qui fait que je suis plus la même personne avant et après parce qu'en fait, ça m'a questionné en fait sur mes réflexes d'homme cisgenre. Les automatismes d'une espèce de réflexe masculiniste et de privilèges, de rapport aux privilèges auxquels les hommes ont droit et auxquels ils font semblant de ne pas y avoir, d'avoir cette supériorité sociale, culturelle, qui est omniprésente en fait.
Mais je trouve ça intéressant que tu abordes le sujet parce que notre dernier épisode est justement sur la question du genre en Afrique. Donc, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui,
Non, mais c'est hyper
mais
important. Moi,
très
mon
important à dire.
film est
Surtout avec.
censuré. Mon film est censuré dans des tas de pays africains parce qu'il est accusé de faire la promotion de la culture LGBT. Dans d'autres, de faire la promotion de la culture polyamoureuse. Donc, c'est intéressant. Et quand je vois ce qui est voté en Italie. Que ce soit par Meloni, que je vois ce qui se passe en Argentine,
Les restrictions aussi au Ghana.
la restriction au Ghana, bah c'est honteux et ça dit beaucoup de notre société en fait. Et c'est une espèce de d'une société qui se recroqueville sur elle-même, sur des valeurs qui sont judéo-chrétiennes, foireuses et qui ne mènent à rien en fait. On est vraiment, je trouve, à un endroit charnière de l'histoire. Vraiment. J'aimerais pas avoir votre âge. ce que ça craint aujourd'hui. Enfin, ça craignait aussi avant, mais que là, on est sur un point où.
Après, c'est
Point
vrai
de
que la
bascule,
bascule,
en
en fait,
fait.
parce qu'on a une ambivalence entre un peu la remontée de l'extrême droite,
Ouais.
mais aussi on a aussi tout ce côté de jeunes créateurs qui apportent leur voix à toute cette revendication politique qui est un peu opposée à tout ça. Et moi, je trouve ça intéressant de voir
Toute
toute
cette
cette
vague.
vague
Ah, je sais pas. Je
de
suis presque
création.
pas d'accord avec toi.
Ah ouais?
Et pour la simple et bonne raison, enfin, t'as vu ce truc de cette analyse de arrêt sur image sur combien de temps les journaux de TF1 et de France 2 réunis ont parlé de la cause palestinienne. Et c'est là que c'est effarant. Et c'est là le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ça nous crée des bulles de pensée, et on pense qu'elles sont partagées par tous.
Le
Mais
tissu doit sortir.
là, la société nous prouve que, en fait, bah non.
Rentrer dans, faut
Nous
sortir de la
sommes
bulle et rentrer dans l'action
sommes une
avec.
minorité qui pense que la création dans la mode peut intéresser certaines personnes, mais ça reste figé dans la mode. Bah, tu vois, je vois même comment Jacquemus s'est fait attaquer pour avoir posté les photos de son mariage ou de son baiser avec son compagnon. Enfin, c'est d'une violence, tu vois. Et c'est intéressant, ça dit beaucoup. Et je pense qu'il doit en être le premier surpris à se dire, ah, mais moi, je pensais que tout le monde me suivait et comprenait, mais en fait, pas du tout. Et que je crois qu'en fait, ouais, le conservatisme gagne du terrain, voilà. Rassure les gens, en fait. Parce qu'en fait, on est dans une situation économique sans pareil, en fait.
Et ben justement, un peu pour reprendre cette question d'économie, moi j'ai trouvé intéressant dans le film, surtout, enfin, il y a des points qui sont assez visibles pour un spectateur qui ne connaît peut-être pas
La culture,
la
ouais.
culture et surtout la géographie congolaise. Moi j'ai trouvé ça intéressant le fait que tu aies filmé à la fois à Kinshasa et à la fois à Lubumbashi. Et alors qu'il n'y a pas de route,
Qui réunit les deux villes.
c'est ça.
N'y a
Moi,
pas de chemin de fer. Il y a un billet d'avion qui coûte plus cher. Un vol intérieur qui coûte plus cher que de venir à Paris. En fait, et c'est une volonté politique, et en même temps, c'est un pays qui fait 6 fois la taille de la France. Donc, c'est un pays continent, et qu'on sous-estime, c'est le premier pays francophone au monde. Alors, imagine les disparités qu'il y a entre Madrid et Copenhague. Imagine une géographie congolaise, quoi. C'est deux mondes différents. Et donc, de les réunir, c'est aussi une façon de déconstruire. De séparatisme ambiant, ce discours de séparer ceux qui gagnent de l'argent à ceux qui nous en coûtent. Enfin, c'est tout ça, quoi. Enfin, j'écoute les politiques, les infos françaises et ça fait peur ce que dit un premier ministre qui n'a pas 40 ans et qui a un discours effrayant sur des chômeurs de longue durée. Enfin, 18 mois être chômeur de longue durée, c'est violent. Enfin, je veux dire.
mais du coup le
Ça
fait
dit beaucoup en fait, hein.
de faire ça c'était vraiment intentionnel c'était
Ouais, c'est intentionnel, ouais, bien sûr.
et mais surtout le fait de pas l'expliquer dans le film c'est-à-dire que c'est vraiment personne n'en parle
Non,
et
personne.
donc c'est vraiment pour un côté un peu pour les connaisseurs ou bien
Non, pour plutôt ce que moi je voulais raconter et je veux pas faire de hiérarchie en fait. Je veux pas avoir une narration pour ceux qui comprennent et ceux qui n'ont pas le bagage. Chacun y prendra ce qu'il veut, en fait. Et c'est ça qui est beau dans l'art, c'est que mon geste peut être traduit par n'importe qui, n'importe comment, et ça lui appartient à lui, en fait. Et ma position, c'est de respecter son choix, en fait. Pas de lui dicter comment il doit le prendre, en fait. Effectivement, les gangs en robe rose n'existent pas à Kinshasa. Ça a été compliqué pour leur faire accepter de porter des robes roses. Parce qu'en fait, il faut déconstruire aussi, tu vois. Moi, je me fais insulter tous les jours à cause de mes robes. passe pas un jour sans que je reçoive une vingtaine d'insultes. C'est marrant parce que du coup, je pense aux questions de cyberattaque, tu vois. Que moi, j'ai peut-être aujourd'hui la maturité et encore, je pense même pas. Parce qu'en fait, c'est tu l'as pendant 10 jours, puis au bout d'un mois, tu commences à t'énerver. Au bout de 2 mois, ça commence vraiment à t'atteindre. Et c'est ça, en fait, qui est vicieux. C'est les attaques qui reviennent de façon lancinante. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et même, j'en sors pas indemne, en fait. Et j'ai beau penser que je suis armé pour, mais j'en sors pas indemne. J'arrive pas à m'en sortir, quoi. Je suis dégoûté, ça m'énerve, je suis là, mais mec, je porte une robe et je t'emmerde. Mais même ça, c'est compliqué. Et le milieu du rap me prend pour un mec, genre, mais il est chelou ce gars-là, il se moque de nos mamans, pourquoi il s'habille comme une maman? Donc c'est compliqué, ouais. C'est compliqué.
C'est le murmure de mes bassesses, succès des autres. Elles m'ont brûlé la politesse, confronte mes échecs. Étrangle avec une auréole, commentaire assassin. On idéalise des trolls et des buzz malsains. Le savoir-faire, ou le faire savoir, ou le faire savoir. La haine ordinaire, en bruit de couloir.
Mais du coup, pour revenir sur le fait des connaisseurs, moi je trouve dans le film, il y a aussi pas mal de choses qui sont assez explicites, notamment tout ce qui est exploitation minière. Je trouve c'est assez intéressant et aussi je trouve que ce qui est vraiment le plus fort dans le film, c'est le choix de l'actrice T'Challa Kérandès. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était vraiment un choix de trouver une actrice rwandaise ou bien ça s'est vraiment fait par hasard?
Non, je l'ai choisi d'abord par rapport à son jeu. Parce que j'ai vu une vidéo d'elle sur un court-métrage et elle m'a juste bouleversé. Et au casting, après 5 minutes, je savais que c'était elle. Il n'y avait pas de discussion. Puis quand elle m'a dit qu'elle était rwandaise, je me suis dit, ah merde. 2 minutes, puis je me suis dit, non, en fait, on s'en fout. Peut-être justement, c'est ce qu'il faut faire. Une actrice rwandaise.
Et du coup, est-ce qu'il y a eu quelle était vraiment il y a eu des critiques, quel était le point de vue,
Un
est-ce que
peu, mais j'écoute pas. Mais ça pose problème, ouais, à des gens. C'est quoi, il y a une vieille émission qui s'appelle On peut pas plaire à tout le monde? Je pars de ce principe. Celui qui essaye de plaire à tout le monde, il fait quelque chose qui ressemble plus à rien, en fait. C'est des choix. Et je trouve que c'est un choix que je suis très heureux d'assumer, en fait. Ça n'empêche que je ne pense pas beaucoup de bien du gouvernement rwandais, mais c'est deux choses différentes en fait. C'est comme si aujourd'hui un réalisateur Gazaoui travaillait avec des comédiens israéliens. C'est de faire la distinction entre un gouvernement sioniste et une population. Et je crois que c'est important en fait.
du coup, toutes ces revendications
C'est notre
politiques.
humanité, en fait. C'est notre humanité qui réside dans ce choix-là, en fait.
J'ai écouté ton album
Ouais.
et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'inspiration déjà, un peu de tous les genres. C'est vraiment très impressionnant et très riche. Et ta façon de poser, on voit vraiment, tu dis dans beaucoup d'interviews que tu es un poète et que tu mourras poète. Et ça se sent vraiment dans, oui, ça se sent vraiment dans tes dans ton rap. C'est vraiment un rap un peu style à la Oxmo Puccino, vraiment posé. Vraiment, cet esprit de poète se ressent beaucoup dans ton rap. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision du rap comme moyen de revendication?
Comme moyen de revendication? Oh, je sais pas si ça l'est encore. Je pense que les gens veulent juste écouter de la fête. Et je comprends. Et ils ont peut-être raison, en fait. Tu sais je sais pas, en même pas entre 2017 et aujourd'hui, la durée des chansons, elle a diminué. On arrive à 2 minutes, le temps d'une chanson. Et on vient de, je sais pas, 3,30, 3,50. Et je trouve que ça veut tout dire, en fait.
Donc un peu dans ton album, tu reviens un peu à la base, parce que faut savoir ton album est assez long.
Ouais.
Et
C'est quatre albums, en fait. C'est quatre albums
oui,
de 30
mais il y a
minutes.
aussi tu revendiques beaucoup dans cet album, ce qui va avec les personnages, donc tout ce qui est identité, notamment avec Kofi, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout ce qui est tu parles aussi de l'amour avec le son L'a disparu aussi. Mais il y a aussi des revendications politiques que tu fais aussi dedans, comme l'exploitation des ressources,
Ouais.
qu'on entend en fond parfois avec la voix de d'Alice.
Ouais, et la voix d'Alice, juste.
Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant que tu parles dans cette DA un peu de revendications et tout en y mêlant tous ces genres assez riches. Ben, il y avait des inspirations vraiment gospel, rock. Tu fais des jeux sur ta voix avec une voix un peu robotique. Il y a du funk, du groove. Et je trouvais ça très intéressant. Et du coup, je trouve que c'est un album assez complet qui mélange plusieurs genres. Ça me rappelle un peu la lancée que de Beyoncé en ce moment, qui reprend un peu tous les genres et qui essaye de dépasser ce genre. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant.
Ouais, comme elle fait avec le country là aujourd'hui.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, quelles ont été tes inspirations pour la création de l'album?
Écoute, plein. Ben, je sais pas, je suis juste un mélomane depuis toujours en fait. J'ai eu un seul job dans ma vie, j'ai été disquaire. Et du coup, j'ai cette culture de d'écouter les nouveautés du vendredi. Et ça peut aller de, effectivement, de Beyoncé à Metro Booming, en passant par un truc électro chez Excel Records, à du jazz, à Amapiano, du nigérien, de la chanson française. Un peu moins, tiens, la chanson française ces derniers temps. C'est. Ouais, c'est hyper vaste. En fait. Quand t'aimes la musique, tu peux plus segmenter, tu peux plus dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont que dans le rap français, un certain son, tu vois, New Jersey Sound, tu vois, qui sont à fond que dans ça, ou dans de la trap, ou dans la drill. Et je suis pas du tout là-dedans, en fait. Je trouve que l'être humain a tellement d'humeur, tellement de. Enfin, tu vois, on est multiples, en fait.
En ce moment, il y a pas mal de tendances. Il y a toujours eu des influences africaines
Ouais.
dans la musique notamment, mais il y a aussi dans la peinture. On peut penser à Keith Haring
Ouais.
qui s'inspirait de la peinture africaine. Surtout, en ce moment, on trouve pas mal de sonorités africaines. Il y a aussi il y a un grand boom de l'amapiano et de
Oui,
l'afrobeat.
bien sûr.
Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de toutes ces influences et
Ouais, il y en a un peu sur les albums. Mujila, les albums Challa, et un peu de. Et même Paco, en fait, c'est des sons quand même plus ouais, qui mélangent une idée de l'afrobeat avec un truc plus trap, un truc plus guitare congolaise. Ouais, c'est beaucoup de mélange, en fait. J'aime bien mélanger.
Et est-ce que tu penses que, parce qu'avant c'était vraiment plus, je sais pas, un aspect un peu exotique,
Ouais.
un peu dans l'appropriation,
Ouais.
sans trop être dans l'appréciation, et puis même dans l'art en général, on l'a vu avec tous les vols des institutions européennes, enfin voilà, maintenant ils essayent, c'est très compliqué d'après eux de rendre
Reprendre.
les œuvres d'art. Mais est-ce que tu penses qu'on sort un peu de cet exotisme, donc cette appropriation, et qu'on rentre vers une sorte de légitimisation, appréciation de l'art africain.
Ouais, je trouve que le monde de l'art est hyper cynique et qu'il est avant tout dans des logiques mercantiles et des cycles, un peu comme en musique, c'est des cycles. Et qu'à un moment, je crois même que la tendance de l'art africain est en train de disparaître, il va revenir en Amérique latine, puis va revenir sur l'Asie et seulement dans 15 ans reviendra sur l'Afrique. C'est vraiment des cycles. et qui se nourrissent et des courants et des vagues et des... C'est compliqué et le contre-effet de ça, c'est qu'en fait, c'est que du coup, beaucoup d'artistes réfléchissent leur art plutôt à comment je vais le vendre avant de qu'est-ce que j'ai besoin de raconter.
Donc, toutes les revendications de surtout politiques, étant donné que c'est le sujet, ça passe un peu au travers. Ces temps-ci, on est vraiment plus dans un art commercial qu'un art
Bah, je sais pas,
à message.
je sais pas, le mot afrofuturisme est un mot qui est inventé de toutes pièces par des génies du marketing, mais en soi, ça veut rien dire. Là, tu sais, le meilleur exemple que je puisse te donner, quoi. Ça n'existe pas, l'afrofuturisme. Enfin, c'est juste un plan marketing, quoi. Pour vendre des trucs, ou l'afropunk, ou... Ça veut rien dire. J'ai vraiment un rapport... Je suis un enfant, en fait. Je suis plus jeune que vous deux réunis. Vraiment, j'ai 17 ans d'âge, quoi. Je pense même moins. Je pense 12. Et en fait, je fais que m'amuser. Je suis pas du tout adulte dans mon rapport à la création. Et en fait, tout est un terrain de jeu. J'ai un tatouage ici qui dit « Travailler avec le sérieux d'un enfant qui s'amuse ». Et je crois vraiment que c'est ma phrase préférée. C'est mais parce qu'il y a le mot travailler et s'amuser qui sont réunis au milieu de la même phrase et qu'il y a un truc d'enfant, tu vois, de parce que l'adulte il pense au marketing, il pense à c'est pas moi le marketing, tu vois. Là, j'ai fait un film qui est basé sur la logique des stories ou des infinite scrolling, et je l'appelais infinite trolling. Et en fait, sur des tout petits extraits, avec des extraits de la musique et des images, des séquences qu'on a tournées. Et ça fait 17 minutes. Et c'est invendable. Et ils sont tous en PLS en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et j'ai kiffé, moi, vraiment, j'ai kiffé créer un objet comme ça. J'ai kiffé nous mettre en danger. Questionner en fait notre temps de cerveau disponible, notre rapport à la consommation, mais de façon comme un gamin, quoi.
Après, au final, c'est ça, alors c'est s'amuser.
Ouais, mais je pense c'est important. Mais je connais plein de mecs qui parlent comme des comptables. Enfin, tu vois, dans le rap, tu sais que les mecs dans le rap, ils savent te dire les chiffres de la semaine de tout le monde. C'est des comptables. Tu vois, je veux dire, tu sais dire, machin, il a fait autant la première semaine, lui, il a fait un, lui, il s'est planté, hein. Il parle que de chiffres, en fait. Et moi, je suis incapable de te dire ce que machin fait, presque je m'en fous, en fait. Et je disais tout à l'heure dans l'interview, et en fait, c'est toute une culture qui est construite autour de ça, et ça, je trouve ça problématique, en fait. Et on n'est que dans une société qui est que dans ce truc du chiffre, de la méritocratie, en fait. Donc imagine le mec qui a 2000 followers, ça veut dire qu'il est moins bon que celui qui en a 1,5 million? Je crois pas. Et je crois même que celui qui en a 1,5 million, c'est un escroc. Et je préfère, mais vraiment, je le pense sincèrement. Mais sauf que tous ceux qui en ont 2005, ils dépriment, tu vois. Ils se sentent pas à la hauteur. Enfin voilà, c'est dangereux.
Un grand merci à toi, Balogi, pour cet
Ben,
entretien.
merci beaucoup.
Merci à toi. Et
Merci à
merci
vous.
à tous ceux qui ont écouté. J'espère que l'épisode vous aura plu. L'album de Balogi est disponible sur toutes les plateformes. Je vous laisse sur cet extrait de La Disparue. Merci à tous.
C'était Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. N'oubliez pas de vous abonner pour écouter ou réécouter nos épisodes et surtout retrouver toutes les activités de l'Amicale sur Instagram, Twitter, actuellement X, Facebook et LinkedIn. À très vite!